What do you want? Information.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 11 d'Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série, d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, et avec moi cette semaine, Caroline Venac de Plus de Séries. Salut Caroline.
Salut Pierre.
Marjolaine Jarry de L'Obs. Hello Marjo.
Bonjour.
Et Eric Bouche de Téléstar. Bonjour Eric.
Salut Pierre.
Au menu cette semaine, une question complexe que les séries ont pris ces derniers temps à bras-le-corps, les maladies mentales. De la récente Légion et son super-héros schizophrène paranoïde à Carrie Mathison, l'agent spécial bipolaire de Homeland, en passant par Sheldon Cooper, geek Asperger de The Big Bang Theory, les personnages atteints de pathologies psychiatriques sont de plus en plus nombreux dans les séries. Dans quel but narratif, pour raconter quelles histoires, avec quelles conséquences possibles sur la société, tâchons d'en débattre.
This place is an emotional black hole. And if it wasn't for the runners, yes, they have a name. They're not just the people, you giant doofus. I would be driving as fast as I could away from you all, but I can't, because apparently I live here now due to completely beyond my control wiring issues, for which there will be a lawsuit. Yes, there will be a lawsuit. There will be no lawsuit.
Mouse.
We know. Mouse, mouse. We get it, Jimmy.
No, the mouse.
Évidemment, évidemment, nous ne sommes pas psy, pas moi en tout cas. Ce podcast ne prétendra donc pas vous expliquer en détail si les maladies mentales croisées dans les séries sont correctement mises en scène. Notre ambition restera celle de critiques et d'analystes sériels. Ne nous en voulez pas pour l'approximation de nos connaissances en psychiatrie. Voilà pour l'avertissement. Maintenant, chers amis, quel beau corpus nous avons devant nous pour débattre. Legion, Homeland, The Big Bang Theory, You're the Worst, que l'on vient d'entendre, The Bridge, Monk, Corky, Empire, Mr. Robot, Bones, Hannibal, Bojack Horseman, et je suis sûr que vous en avez d'autres en tête. J'en ai oublié.
Moi, je me dis qu'en préalable, il faut peut-être se revenir un tout petit peu en arrière avant ces séries-là, et puis après y revenir très vite. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait de pas aller bien dans sa tête, c'est la caractéristique majeure du héros de séries contemporains. C'est-à-dire, ça va du simple névrosé au psychopathe. Mais ça fait depuis Les Sopranos et la dépression de Tony Soprano que la plupart des anti-héros de séries sont en réalité des malades mentaux dans une certaine mesure, et que finalement ce qui est l'évolution la plus récente à mes yeux, c'est que ils sont de plus en plus diagnostiqués comme tels dans les séries, c'est-à-dire que Carrie, on sait qu'elle est bipolaire, le mot est prononcé dans la série, dans Légion, pour parler d'une série encore plus récente, le héros entend des voix, il est dans un hôpital psychiatrique, l'héroïne de You're the Worst est cliniquement dépressive. Et ça, je trouve que c'est la nouveauté des séries dont tu as cité, c'est que la maladie mentale est vraiment posée comme telle.
Avec maintenant, ça devient plus difficile de trouver des héros qui n'ont pas de maladie mentale, qui sont comme Monsieur Tout-le-Monde, que des héros qui souffrent de troubles mentaux.
Mais Monsieur Tout-le-Monde est un peu dingue quand même.
Je ne sais pas.
Nous n'avons pas Monsieur Tout-le-Monde à cette table, donc... revenons, tu proposais, Caroline, qu'on revienne un peu en arrière. Un stéréotype, entre guillemets, qui aujourd'hui a un petit peu disparu, c'est que avant, pour faire des généralités, le fou, c'était le psychopathe, c'était le tueur, c'était forcément le méchant. Ça, c'est quelque chose qui a disparu des séries, ou c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, quand on décrit un personnage qui a des troubles mentaux, il y a quand même une fois sur deux, c'est un psychopathe. Je pense à Esprit Criminel, par exemple, hein, qui, presque dans sa définition, dans son titre, Criminal Minds, il est question de pathologie aussi, de sociopathe, de psychopathe, de tueur en série, etc.
C'est vrai qu'on a été très fascinés dans la culture populaire en général, pas que dans les séries, par les figures de grands psychopathes qui étaient à la fois des génies.
Psychose, par exemple.
Voilà, oui, Psychose est sans doute une des genèses de ça. Mais à chaque fois, on justifiait notre fascination par le fait que ce sont aussi des génies, souvent avec un intellect extrêmement développé. Leur folie va de pair avec cette espèce de supériorité intellectuelle et de perspicacité intellectuelle. Je pense que c'est en train de tomber un peu en désuétude, cette figure du mal à travers la folie, voilà, les grands psychopathes. Je pense qu'on est en train de changer un peu d'époque et qu'effectivement, ce sont davantage des gens à notre échelle, les héros qu'on voit aujourd'hui dans You're the Worst ou même dans Légion ou même dans Mr. Robot, des gens peut-être qui sont plus faillibles, et ça c'est intéressant à observer.
Et le grand méchant quand même, enfin je pense à une des séries qui fait le plus d'audience aujourd'hui à la télévision, qui est The Walking Dead. On peut quand même dire que globalement les deux tiers des copains de Negan sont clairement des fous furieux, quoi, mais au sens le plus maladroit et le plus large du terme. Mais en gros, ils ont des comportements de sociopathes et de psychopathes et qui, alors là pour le coup, on est dans la caricature totale.
Mais c'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment les très méchants et les très gentils. C'était blanc et noir. Et c'est vrai que depuis Les Sopranos ou d'autres séries, on a voulu créer des héros qui étaient un peu dans une zone grise, ce qu'on appelle. Avant, c'était une exception. Il y en a eu. Hein. Il y a eu JR, qui était quand même le premier héros de série qui était un méchant, qui était un type diabolique. C'était le premier. Ensuite, il y a eu Profit, etc. Mais c'était vraiment des exceptions. Et maintenant, on a voulu créer des héros qui étaient plus entre les deux. On a plus envie de ces espèces de personnages ou tout blanc ou tout noir. On veut trouver quelque chose d'intermédiaire.
Donc en gros, le anti-héros, hein, on parlait de Tony Soprano, mais on peut parler aussi évidemment dans d'autres degrés, mais d'un personnage comme Dexter. Le anti-héros, c'est finalement une entrée aussi dans ce débat-là, dans l'évolution de la mise en scène d'une certaine faillibilité psychologique ou psychiatrique.
Ouais, Dexter, c'est le moment du retournement. Il me semble que c'est le moment où on est du côté du héros qui tue les psychopathes, mais qui est lui-même psychopathe. Donc c'est vraiment un moment où ça se retourne. Et puis après, il y a toute cette interrogation du coup qui en découle, je trouve aujourd'hui, qui est intéressante sur la psychose et la névrose. On dit que la psychose, celui qui est atteint de psychose, c'est celui qui pense que 2 et 2 font 5 et tout va très bien. Hein, donc là, c'est le psychopathe qui est bien dans son délire. Et que le névrosé, c'est celui qui sait bien que 2 et 2 font 4 et c'est très dur à vivre. Et là, on a plein de héros qui questionnent ça, quoi, qui questionnent notre souffrance de Monsieur Tout-le-Monde. Et puis, parfois, quand même, qui interroge justement la différence entre névrose et psychose, parce qu'il y a des vrais moments de délire, comme dans Mr. Robot, la question des hallucinations, et donc la question de cette frontière entre névrose et psychose. Ouais.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression quand même qu'ils ouvrent un dictionnaire médical avant de commencer une série, et qu'ils se disent, tiens, ce personnage, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver comme psychose aujourd'hui pour créer mon personnage, parce que je peux plus faire une série avec quelqu'un qui serait pas complètement psychotique. Et je trouve que ça devient problématique, ça devient la norme, en fait, maintenant.
Oui, mais en fait, je pense qu'il y a eu énormément de personnages de fous bigger than life qui, en réalité, ne cherchaient pas véritablement le réalisme dans la manière dont la maladie mentale était mise en scène et montrée. Et c'était davantage des totems, des grandes figures du mal ou de la folie sur lesquelles on pouvait projeter un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression que dans un certain nombre de séries d'aujourd'hui, on revient vers une vision peut-être plus réaliste et quotidienne de ce qu'est la maladie mentale. Et finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus là maintenant.
Sometimes watch you on your webcam. You cry sometimes. Just like me. Because you're lonely. I don't just hack you, Krista. I hack everyone. My friends, co-workers. But I've helped a lot of people. I want a way out of loneliness. Just like you.
La voix d'Eliot Alderson, le héros de Mr. Robot, dépressif, entre autres pathologies. La dépression, qui est la maladie mentale la plus souvent mise en scène dans les séries. On pense évidemment à Tony Soprano, mais aussi à Gretchen de You're the Worst, à BoJack Horseman, pour ne citer que. Dans ce cas, est-ce que c'est pas un outil narratif? Est-ce que c'est un trait de caractère du personnage, tout simplement? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un moyen de le rendre attachant, de le rendre faillible, de le rendre, de prendre un personnage qui pourrait potentiellement être un vilain, un méchant, qu'on ne pourrait pas aimer, de le rendre faillible et du coup attachant? Ou est-ce que c'est un vrai outil narratif? Parce qu'on va parler évidemment après de ce que peut apporter une maladie mentale à un scénario.
Ça peut être dangereux aussi, hein, il me semble. Hein. Moi, je trouve que c'est assez osé quand ils y vont, parce que la dépression, c'est quand même le contraire de toutes ces bonnes recettes du scénario. Il faut que ça avance, le héros est une force qui va. Et là, les séries qui le font bien, elles osent jouer sur le fait que la dépression, c'est la répétition, que la dépression, c'est le retour en arrière. Et dans Mr. Robot, c'est très âpre, hein, quand même. On a vraiment une idée assez crue, je trouve, de la souffrance mentale, une idée aussi du délire comme protecteur. Finalement, si on lui enlève ce délire, qu'est-ce qui reste? Donc, on en arrive à comprendre cette vertu du délire. Et Gretchen, elle est quand même... Ouais, je trouve que le moment de basculement, on entendait l'extrait au début là, qui rend le moment de basculement de la saison 2 avec cette souris qui ne meurt pas en plus, qui s'en sort à la fin de l'épisode dans un trou de souris.
Spoiler. Oui, mais donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il y a un risque que ça rende antipathique, que le personnage se ferme littéralement. Donc
c'est surtout la série elle-même, c'est-à-dire que la dépression, c'est pas très sexy sur le papier. C'est-à-dire que, comme tu le disais, la dépression, c'est l'ennui, c'est la rumination, c'est des choses qui sont pas très flamboyantes. Alors quand t'as un psychopathe comme Hannibal ou Dexter, certes, il est fou et tout, c'est terrible, mais il est flamboyant, c'est le diable, quoi. Et donc le diable nous fascine et nous excite et nous attire. En revanche, la dépression restait dans son canapé en boule toute la journée, est-ce qu'on a envie de voir ça sur un écran? Donc comment rendre ça intéressant, visible? Je pense que c'est un outil narratif, c'est surtout un outil de caractérisation des personnages. Dans le cas de Gretchen dans You're the Worst, ou dans le cas, là il s'agit pas de dépression mais de troubles obsessionnels compulsifs de Dana dans Girls dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça permet aussi de montrer des facettes de la féminité qu'on n'avait pas nécessairement la possibilité de voir représentée à l'écran avant, et donc ça c'est un outil narratif qui je pense fait évoluer les représentations.
Alors évidemment, il y a des pathologies plus lourdes, hein, je fais pas un classement de la lourdeur des pathologies, mais qui ont, semble-t-il, un impact plus direct sur la narration, parce qu'évidemment, quand on parle de dépression, à la limite, il pourrait faire une narration plus lente, moins nerveuse dans le cas de la comédie. Mais alors, quand on prend des pathologies plus lourdes, je parle celle de, par exemple, le côté bipolaire, le fait que Carrie dans Homeland est bipolaire, ou dans The Bridge, hein, Saga Noren, qui est aussi une pathologie, ça a un impact direct dans la série, c'est-à-dire que c'est ce qui est le déclencheur de leur savoir-faire policier. C'est pas simplement quelque chose qu'ils vont devoir gérer personnellement, c'est aussi, tu parlais de talent tout à l'heure, mais c'est aussi leur talent, c'est aussi un mécanisme dans ces polars en tout cas.
Alors ça, j'ai jamais su si c'était vraiment un cliché, quelque chose justement pour rendre la maladie mentale plus sexy, de systématiquement l'associer à un savoir-faire ou à un talent particulier dans son domaine. C'est-à-dire, ok, elle a des TOC, elle est autiste, elle est bipolaire, mais elle est géniale. Ça, on en revient toujours un peu à cet équilibre que les séries cherchent à trouver. Moi, je trouve ça intéressant quand on cherche pas à contrebalancer. Justement, la Gretchen dans You're the Worst, elle est dépressive et elle est pas spécialement géniale. Et pourtant, elle nous intéresse. Alors, comment ils font pour nous intéresser à cette fille? Là, je trouve ça encore plus intéressant, ce challenge-là, que de toujours chercher à héroïser d'une autre manière un personnage qui par ailleurs souffre d'une maladie mentale.
C'est vrai qu'en général, quand même, ça permet de caractériser facilement le personnage dès le départ, puisqu'on montre tout de suite de quelle maladie il souffre. Donc tout de suite, il y a une espèce d'empathie qui se crée vis-à-vis de ce personnage.
Quoi qu'elle n'est pas toujours nommée, mais on en reparlera. La maladie n'est pas toujours nommée.
On se rend tout de suite compte qu'il y a un problème avec ce personnage. Donc en effet, il y a tout de suite un espèce de lien qui se crée avec le téléspectateur. Et c'est vrai que moi, pareil, je suis un peu gêné. C'est depuis un peu le film Rain Man, où dès qu'il y a un personnage qui est autiste, etc., il faut que ce soit un génie absolu. Alors il y a Scorpion, il y a Mentaliste, etc., tous... C'est des personnages limite autistes, mais qui sont absolument géniaux. Je sais pas, c'est typiquement américain ça, hein, d'avoir besoin d'un personnage qui sort de la norme, qui est génial, qui est bigger than life. Et c'est pour ça qu'on le retrouve pas trop dans les séries françaises, parce que c'est vraiment dans la culture américaine d'avoir ce genre de personnage.
Il y a quand même Chloé dans Profilage.
Oui,
est une enquêtrice un peu dérangée, je ne sais pas exactement de quoi
elle est. C'est le seul, hein. Moi, j'en vois pas tellement.
Particulièrement compétente dans son domaine, grâce, entre autres, à sa
maladie. Ça marche bien dans les polars, hein, en général, ce genre de compétences mentales. Alors, si on pousse encore plus loin et qu'on descend dans la gravité de la pathologie, je continue mon top 3, vous allez voir que le quatrième point, finalement, donnera raison à mon mauvais goût au niveau de l'humour. Il y a Mr. Robot, dont on a entendu un extrait, la récente Légion. Alors là, on est carrément dans la pathologie, fait partie, alors attention, spoiler ou pas, où on en est, fait partie de la structure narrative, et c'est la vision de la mise en scène, carrément, c'est la vision de la maladie mentale qui fait le thriller, ou qui fait le suspense, etc. Donc là, on pousse encore plus loin l'utilisation de la maladie.
Dans les deux cas, il y a vraiment une tentative de mise en représentation formelle de ce qu'est la vision du monde de quelqu'un qui est schizophrène, en l'occurrence, puisque les deux, là, encore une fois, mes compétences en psychiatrie, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont pas forcément, mais bon, qui souffrent d'une forme de schizophrénie ou de paranoïa. Et alors, dans le cas de Légion, c'est particulièrement spectaculaire. Ceux qui ont vu déjà le pilote savent que voilà, il y a pas une minute, une seconde de ce pilote qui soit pas dédié à mettre en scène ce qui se passe dans le cerveau de David.
Oui, ça, David Haller, oui.
Voilà. Ce que je trouve intéressant par ailleurs dans Légion, c'est que tout d'un coup, on se détache un peu de l'idée de que la folie serait soit associée au génie, justement, soit.
Là, c'est quand même un super pouvoir, donc.
Ouais, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que justement, c'est ce que dit la série, et c'est un peu la mythologie des super-héros qui veut ça, c'est que la folie, finalement, c'est le nom que met la société sur les gens qui ont un pouvoir qui la menace, finalement, qui menace l'ordre établi, et que si le fou parvient à réaliser ça et à contrôler sa folie, en fait, il peut changer le monde. Donc c'est pas tant que ça soit un génie, c'est qu'il possède en lui des ressources subversives. Et ça, je trouve ça plus intéressant finalement que de dire il est fou et il est génial. C'est un peu plus subtil, et en ça, je trouve ça un peu novateur.
Je relance sur ma question qui était aussi de la mise en scène, c'est-à-dire du mécanisme de la folie, comme vraiment, en gros, ce qu'on voit, est-ce la réalité ou est-ce ce qui est dans la tête du personnage ?
Là, c'est en effet totalement justifié dans cette série, puisque tout tourne autour de ça. La série va tourner autour de sa folie, donc la caméra se met souvent dans sa tête, on ne sait jamais si c'est ce qu'il croit, ce qui est la réalité, etc. Donc là, autant moi, il y a beaucoup de séries qui me gonflent un peu, de fait de, en effet, systématiquement donner une maladie psychologique au personnage, autant dans celle-là, c'est complètement justifié. Et donc, en effet, la réalisation va se mettre au diapason du personnage en suivant, en effet, les méandres de son cerveau et son évolution, oui.
Et c'était aussi le cas dans Mr. Robot.
Ouais, c'est le questionnement de la norme à chaque fois qui est quand même super intéressant. C'est que Mr. Robot, c'est pareil, avec sa folie, il dénonce évidemment notre folle normalité. Est-ce que c'est bien plus sain ce à quoi nous nous adonnons et qui est absolument fait évidemment pour nous contraindre, pour faire de nous de bons petits consommateurs dans leur roue de hamster? Et à chaque fois dans les séries, enfin souvent dans les séries chouettes, là c'est la folie est faite pour ça, quoi, bien pour questionner même l'existence de la norme à l'endroit, la télé qui est la plus pourvoyeuse évidemment de normes, de modèles, de bienséance.
Je viens de penser à un truc, c'est au suremploi de Where Is My Mind, le morceau des Pixies dans les séries ces derniers temps, qui je pense est lourd de sens. Et du coup, j'avais oublié de citer The Leftovers, où il est aussi question du personnage principal qui se questionne sur sa, enfin, savoir s'il a pété un câble, s'il a des visions, s'il est complètement fou ou si c'est autre chose. Donc cette notion de perdre l'esprit et de ne plus savoir où on en est est quand même assez symptomatique des séries contemporaines.
Mais oui, et pour rejoindre Marjolaine, mais on pourrait presque l'appliquer à The Leftovers aussi, c'est de dire que finalement, est-ce que la folie, c'est pas la réaction la plus saine quand le monde lui-même n'a plus de sens, en fait. Et Légion, et Mr. Robot, et The Leftovers, chacun à leur manière, je pense, qui réfléchissent ça et qui travaillent cette idée-là. Et ça nous sort un peu de toute une époque de psychopathes et de névrosés un peu caricaturaux, dont moi, personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'en avais un peu assez. Et là, ça va vers autre chose, je trouve.
Alors, quand on parle de caricature, ça m'amène directement à la comédie, parce qu'il y a aussi des comédies qui jouent avec ces codes-là. The Big Bang Theory, d'une part. Je rajoute United States of Tara, qu'on a un peu tous oublié, mais qui mettait en scène un personnage, une héroïne qui souffrait de dédoublement, en fait, de détriplement, je sais pas si ça existe, de personnalité. Est-ce que c'est vraiment des cas isolés ou est-ce qu'effectivement la comédie, est-ce que la folie, employons un mot qui est politiquement incorrect parce que c'est un peu un raccourci, peut être aussi un bon moteur de comédie?
Ouais, puis c'est un bon endroit, je trouve, la comédie, enfin la folie au sein de la comédie pour interroger. On dit qu'on juge une société à l'aune de la façon dont elle traite ses fous. Et là, justement, il me semble qu'à chaque fois, on voit c'est quoi vivre avec la folie. Tara, c'est une mère de famille et elle habite chez elle. Elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique, mais là, elle est chez elle. Elle veut arrêter sa médicamentation. Et donc, quand elle arrête d'être médicamentée, eh ben, ses délires ressurgissent. Et Big Bang Theory, c'est les moments très émouvants, je trouve, de cette amitié avec Sheldon, donc qui est a priori Otis Asperger. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas nommé d'ailleurs.
Et il dit toujours,
j'ai été testé, je ne suis pas.
Ma mère m'a fait tester.
Et c'est là que c'est super par rapport à la case et la norme et tout, parce que tout de suite, il désingue cette idée même de case, justement, de dictionnaire, de maladie médicale. Et ben, on peut le suspecter, mais en fait, lui, il arrête pas de dire non, j'ai été testé et tout. Et donc voilà, la folie vivre ensemble.
C'est un ressort comique aussi, depuis toujours.
Même dans The Bridge, d'ailleurs, où Bron, le personnage qui est une espèce de, qui est une forme d'autisme, qui est complètement direct avec les gens, qui leur balance leur quatre vérités au visage, c'est aussi un.
Oui, et puis dans les sitcoms, en général, il y a toujours des personnages. On se rappelle de Seinfeld, Kramer, dans Friends, Monica, qui est complètement
psychorigide.
C'est un ressort comique, en effet, dans la comédie.
Alors depuis le début de ce podcast, on tente de faire des constats, d'analyser comment les maladies mentales sont mises en scène dans les séries, et les exemples ne manquent pas, on l'a vu, mais ce qui est encore des tabous, un excellent papier du site américain Vulture souligne par exemple que les diagnostics, on en a parlé un petit peu au début, sont encore souvent flous, ce qui en dit long sur le fait qu'on peut montrer des gens malades mais pas parler sérieusement de leurs maux. C'est un peu technique, mais c'est important. Par exemple, il cite le créateur de Bones, qui a reconnu Bones, donc le polar, qui a reconnu que s'il avait payé sur le câble et non pas sur Fox, donc sur une grande chaîne américaine, il aurait dit d'entrée de jeu que Brennan, son héroïne, son personnage principal, a Asperger, une forme légère d'autisme dont on a parlé là. Donc il y aurait finalement une forme de censure. Enfin, on a beaucoup parlé de série du câble là.
Je pense qu'il y a de la timidité ou en tout cas de la réserve peut-être de la part des chaînes à parler directement de la maladie. Bon, encore une fois, c'est pas sur le papier extrêmement séduisant, la maladie mentale. C'est pas joli à voir, c'est pas drôle, c'est même très triste souvent, pas que d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est compliqué d'aborder ça de front, je pense. Alors que ça pourrait sans doute être très intéressant, que ça soit dans le drama ou encore une fois dans la comédie, une sitcom dans un hôpital psychiatrique. On peut imaginer à quel point ça pourrait être drôle, peut-être émouvant aussi, si c'était traité comme une comédie dramatique. Mais oui, aborder ça de front, je pense que c'est encore assez compliqué. Donc
c'est peut-être aussi juste pour toucher un plus grand public, c'est-à-dire de se dire si tout de suite on va citer une maladie neurologique très précise, les gens vont se sentir un peu détachés du personnage, alors que si on reste dans le flou, tout le monde se dit on est nous aussi un peu fou, un peu dépressif, etc. Et donc on va avoir peut-être plus d'attache avec ce personnage que si c'était vraiment un cas particulier.
Bon, il y a quelque chose qu'on a oublié de citer depuis le début, c'est le monsieur ou la madame qui est assis de l'autre côté du canapé. Parce que les personnages de psy, pour le coup, on en a vu une pelletée, et des séries où il y a des séquences chez le psychiatre. Alors, c'est sans doute que l'Amérique passe la moitié de ses journées chez son psy, mais là, pour le coup, et dans les séries américaines en particulier, on a eu pléthore de séries où on va chez le psy, à commencer par In Treatment, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est pas en même temps s'il y a un personnage qui souffre de trauma post-traumatique, je suis paumé là-dessus, PTSD en anglais, je vais le trouver en français, de troubles post-traumatiques, voilà, j'y arrive. Mais donc, le personnage du psy est un personnage récurrent des séries américaines, ça, pour le coup, et depuis un bon moment.
Qui est parfois un personnage comique, d'ailleurs. Je pense à un épisode récent de Crazy Ex-Girlfriend, une série assez peu
qui regardée, est une série qui s'appelle l'ex petite amie folle, donc les choses
les échanges avec la psy sont très drôles, donc parfois c'est aussi une manière de tourner en dérision. C'est vrai aussi que les séries américaines des 20 dernières années ont été très infusées conditionnées par la psychanalyse. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup travaillé l'écriture des personnages et tout ça. Je pense aussi qu'on est un peu en train de sortir de ça, que l'idée de la psychanalyse, d'aller s'asseoir en face de quelqu'un.
Il y a Big Little Lies récemment sur HBO qui
non, mais évidemment, ça reste de toute façon quelque chose qui sera toujours présent, mais ce personnage du psy, je trouve qu'il commence à devenir presque un peu ringard aussi, avec la fin de toute cette génération de grands anti-héros. Je pense qu'on est doucement en train de passer à autre chose.
Et c'était aussi une forme de voix off quelque part. Enfin, c'était un moyen de faire vocaliser, de faire concrètement dire au personnage son mal. Là où peut-être les séries plus modernes ont de moins en moins besoin de ça. Et justement, c'est peut-être une avancée d'ailleurs. Ça sera une bonne façon d'ouvrir ce débat dans la mise en scène des maladies mentales. C'est que il est peut-être plus nécessaire de les hyper-analyser, mais juste de les montrer et de faire en sorte que le personnage est malade et on le verra, mais on n'a pas besoin de le dire, de le parler, de l'expliquer, d'aller chez le psy, etc. Ouais.
Je crois qu'il y a aussi une volonté de plus en plus de dépathologiser la folie d'une certaine manière, c'est-à-dire de dire la folie c'est une maladie mentale, mais la folie c'est peut-être aussi la créativité, une forme d'identité, quelque chose qui peut bouleverser les règles établies, une métaphore de quelque chose, et donc le psy il vient repathologiser, remédicaliser quelque chose qui est en train de prendre une sorte de liberté.
Le problème quand même c'est que ça touche une faible partie de la population. Si les scénaristes etc. font ça, c'est avant tout dans un but mercantile, hein, faut pas se leurrer. S'il y a des personnages qui souffrent de troubles mentaux, c'est simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ça touchait les gens, c'était facile de caractériser ces personnages. C'est pas dans un but de faire connaître au public ces maladies. C'est pas dans ce but-là. Hein. C'est simplement, faut pas être naïf.
Ça peut être aussi une bonne idée dramatique quand même.
Oui, c'est ça, mais c'est uniquement dans un but purement mercantile, c'est-à-dire de se dire on va faire un personnage comme ça, ça c'est tout de suite une bonne idée, c'est pas dans un but pédagogique ou quoi que ce soit. Hein, quand ils sont...
Il y a des auteurs quand même qui parlent de choses qui les préoccupent, ouais, après, tout n'est pas...
Là c'est quand même 90% des séries américaines.
Tu nous flingues la pureté de notre débat là, d'un seul coup.
Moi je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il y a des deux, oui évidemment, on trouve des sujets pour des cibles commerciales, mais bon, ça serait quand même... Enfin, on serait peut-être pas là quand même s'il n'y avait pas aussi autre chose... Dans les séries
Moi, je regrette un peu quand même les héros plus ordinaires. J'ai toujours été plus attaché en fait aux...
Mais la folie est ordinaire, mon cher Eric.
Oui, mais des personnages au départ un peu qui ne sont pas catalogués dès le départ comme ça, comme des espèces de personnages avec des problèmes mentaux, à qui il arrive des choses extraordinaires et qui vont basculer. Par exemple, je pense à Breaking Bad, qui montrait en effet Monsieur Tout-le-Monde au départ, qui est un prof de physique, comme peut être n'importe qui, et qui, au fil de la série... Mais ça, le problème, c'est que ça demande un certain temps et une implication du téléspectateur. Alors que c'est beaucoup plus simple, dès la première seconde, dès le premier épisode, de montrer tout de suite, voilà, le personnage, il est comme ça, il a ce trouble-là. Je pense que c'est aussi une facilité scénaristique.
Moi, je trouve que la souffrance mentale, quand elle n'est pas romancée, comme tu disais justement, Caroline, tout à l'heure, justement, quand elle n'est pas romancée et qu'elle arrive justement à cette authenticité et à cette âpreté, je trouve que c'est vraiment pas une facilité scénaristique parce que, ou Don Draper, qui est dans ce schéma de répétition, montrer ça, ce qui est quand même super intéressant, qui est le syndrome de la répétition, de recommencer tout le temps et d'être dans cette incapacité à assouvir son désir, à trouver son plaisir. Enfin, c'est quand même le contraire d'un truc marketing, parce que c'est quand même le mec qui n'y arrive jamais. Et...
Oui, mais ça, on le découvre vraiment au fil de la série. Hein. C'est pas dès le départ, c'est pas montré dès le premier épisode de la série. Là, c'est vraiment.
Donc, pour résumer, tu serais plutôt à t'opposer aux maladies mentales comme un principe fondateur du personnage dès le départ.
Maintenant, ça devient systématique. C'est ça le problème. C'est on a l'impression que c'est un outil marketing. Hein.
Sheldon, you're wrong. Wolverine was not born with bone claws.
Howard, you know me to be a very smart man. Don't you think if I were wrong, I'd know it?
Okay, first of all...
Give it up, dude. You're arguing with a crazy person.
I'm not crazy. My mother had me tested.
Assez causé, chers amis, on vient d'entendre Sheldon et sa fameuse réplique « I'm not crazy, my mother had me tested », je ne suis pas fou, ma mère m'a fait tester ou elle m'a fait passer des examens. Assez causé, laissons la parole au public d'un épisode et j'arrête. Vous trouvez que nous sommes passés à côté d'un élément clé du débat, vous êtes psy et vous voulez témoigner. Vous avez des questions, la parole est à vous, on vous écoute.
Je vais rejoindre Eric, bonsoir, sur le côté hyper mercantile du truc. T'as un côté fascination quand c'est des types qui vont chasser des criminels parce que, en fait... Dans l'esprit criminel, il y a plus ou moins Asperger ou dans le genre. Et t'as aussi un côté hyper identitaire. Il y a combien de nanas vont s'identifier, la nana un peu dépressive ou de mecs au psychopathe qui soit le méchant ou le gentil. Ça va s'essouffler, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui se développe depuis qu'il y a Internet, Facebook et compagnie, et le surcul de la personnalité, et on développe tous des trucs un peu... des troubles un peu psychiques qui sont vrais ou pas, quoi, mais j'ai l'impression que combien de potes à moi s'identifient au mec de Mister Robot juste parce qu'ils sont dépressifs, quoi.
Ah, donc qu'en fait, ça serait le reflet juste d'un nombrilisme générationnel
C'est un truc hyper mercantile, mais en même temps, qui va être à la lisière du truc du Enfin, si tu regardes Facebook, combien de potes à toi sont des génies? Parce que sur une étude de démotivateur, si tu réponds à 10 questions, oui, t'es un génie, quoi. C'est la même chose. Alors moi, mes parents m'ont toujours dit que j'étais un connard, et au final, quand tu regardes Dr House, je dis la même chose que lui.
Ce qu'ils t'ont fait tester, c'est ça qui est important.
Pas encore, je refuse.
D'accord. Oui, d'accord. On voit en tout cas, vous voulez en venir, le côté... Enfin, c'est là qu'on est peut-être dans le même sens que ce que tu voulais dire, Eric, du côté... voilà, en fait, c'est juste parce que la société se regarde beaucoup, et du coup, comme on se regarde beaucoup, on crée des personnages qui se regardent beaucoup pour plaire au plus grand nombre, quoi.
Après, c'est peut-être aussi une mode. Hein. Faut voir, il y a 20 ans, en effet, il n'y en avait quasiment aucun personnage. Il y avait, comme je disais, JR, Profit, c'était vraiment une poignée de personnages qui étaient comme ça. Est-ce que dans 20 ans, il y aura une nouvelle mode
On n'a pas parlé de Twin Peaks, hein, mais dans Twin Peaks, il y a quelques... Mais bon, c'est plus compliqué que ça.
Ça va s'essouffler. Vous en avez oublié, après, il y a une petite rectification. Enfin, l'autisme, ce n'est pas une maladie mentale, c'est un trouble psychique, c'est un peu différent. Il y a des gens qui t'assassineraient pour dire ça. Mais
j'espère pas.
La série que vous avez oublié tout, c'est comment s'appelait Dr Doug. Alors, il a 14 ans, il est chirurgien.
Ah, Dougie.
Ouais, mais c'est un surdoué.
Oui, c'est un surdoué.
C'est un surdoué, mais il avait Asperger plus ou moins.
Mmh. Ouais. Ah, c'est vrai qu'après, on met des étiquettes.
Quand t'es chirurgien à 14 ans, t'es pas que surdoué, t'as un truc dans le cerveau qui fait que. Quoi.
Ou qui fonctionne trop bien.
Mais c'était il y a longtemps. Mais oui, du coup, ça va s'essouffler, forcément. Ils vont trouver un autre truc.
C'est la nature humaine quand même. Alors, je sais pas si ça va s'essouffler parce que c'est quand même la complexité de la psyché. C'est pas le genre de truc qui s'essouffle très vite quand même, je trouve.
Et refermons là-dessus, sur ce débat extrêmement compliqué, profondément sociétal. J'allais dire qu'on peut presque sortir des séries et continuer cette discussion-là pendant tout le repas. Refermons là-dessus cet épisode 11 de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries ACS en partenariat avec Binge Audio, épisode consacré donc aux maladies mentales dans les séries, dans toute la compréhension du texte. Merci du terme, pardon, et merci à Caroline Venac de Plus de Séries, Marjolaine Jarry de L'Obs, Eric Bouche de Téléstar. Merci aussi à Jules Cro, comme toujours, à la technique et au public de l'antenne ici à Paris 11. Merci à vous. L'Association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez nous suivre, d'ailleurs vous devez nous suivre, suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on passera nos slips par-dessus nos collants, et pour les plus stylés, on mettra une cape pour discuter des super-héros en série, et donc reparler de Légion, mais aussi d'Iron Fist, la nouvelle série Marvel qui arrive sur Netflix, et de la foule de séries du genre qui se bousculent sur nos télés. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.